Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Ils et elles sont un collectif d'habitants de Bourdeaux. En fin d'année 2021, ils décident de se réunir et de former une association pour venir en aide à deux femmes exilées et menacées de se retrouver sans abri et à la rue. C'est en novembre dernier qu'ils montent le réseau Femmes à l'abri 26, bien déterminés à assurer un logement digne et pérenne à ces deux femmes, ainsi qu'à leurs enfants, qui sont trois en tout. Nous recevons aujourd'hui la présidente de réseau Femmes à l'abri 26, Anne Caïs. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, pour un peu parler de la genèse de votre association, comment vous avez connu la situation de ces deux femmes que vous avez voulu aider ?
Parce que je suis par ailleurs militante associative, active dans une association qui s'appelle Sorosa, qui se trouve à Valence, qui est en soutien aux personnes, en accompagnement aux personnes exilées. Et moi, je m'occupe de la commission femmes. Donc, dans une dynamique un peu spécifique autour de la situation des femmes en particulier. Et parce que à la fin de l'été, et c'est encore actif et ça se dégrade encore, il y a eu une quantité astronomique de gens qui ont été mis à la rue, en dehors des circuits d'hébergement d'urgence. Et quand je revenais de ces moments-là, je pouvais en discuter avec des voisins et amis qui se sont associés à moi en disant « mais on ne peut pas laisser les choses comme ça, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ». Et c'est là que l'association a commencé à se monter.
Et donc on ne donnera pas les deux noms de ces femmes en question pour des raisons d'anonymat que vous voulez préserver.
C'est ça.
Et, mais est-ce que peut-être vous pourriez parler de leur parcours ou en tout cas de leur situation qui les a amenées à venir en France ? Il y en a une qui vient d'Albanie, l'autre de Macédoine.
C'est ça. Alors, la première, c'est pour des questions de violence conjugale extrême. Elle a fait une demande d'asile ici qui n'a pas abouti parce que pour qu'une demande d'asile soit acceptée, il faut considérer que le pays n'est pas en mesure de protéger les personnes au sujet dont il est question par rapport à la demande d'asile. Donc là, dans la question des violences conjugales, or c'est quelque chose d'absolument systémique. En plus, elle était l'épouse d'un fonctionnaire de police et que les violences conjugales sont tellement présentes qu'elles sont quasiment systématiques. Il y a une seule, pour donner un petit ordre d'idée, il y a une seule institution qui s'occupe des violences conjugales en Albanie. Et la psychologue de cette institution est venue, est exilée, elle est à Valence elle aussi. Elle a été menacée, sa petite fille qui avait 2 ans à l'époque a été menacée également. Donc c'est quelque chose qui n'est pas protégé du tout, mais la France ne considère pas que c'est un sujet véritable qui mérite une demande d'asile acceptée, quoi. Donc là c'est pour la première qui est allée au bout, qui pour l'instant est en demande de ce qu'on appelle réexamen, c'est-à-dire qu'elle conteste la décision du refus de sa demande d'asile. Elle apporte des éléments nouveaux par rapport à ce qui s'est produit jusqu'à maintenant qui peuvent appuyer sa demande et elle espère avoir une issue favorable. La seconde ne peut pas rentrer en Macédoine parce qu'elle a eu un enfant hors cadre mariage en France. Et que un enfant hors cadre du mariage, donc là elle a reçu des menaces directes de sa famille en cas de retour, elle se ferait séparer de son enfant et elle-même serait exclue de manière très très violente de sa famille, il n'y a pas de possibilité de retour.
Donc vous êtes 10 à avoir créé le réseau Femmes à l'abri 26, vous êtes tous et toutes habitants et habitantes de Bourdeaux.
Jusqu'à Bouvières on va.
Jusqu'à Bouvières.
On a étendu notre territoire en expansionniste.
Et comment la nécessité de vous mobiliser alors pour venir en aide à ces deux femmes vous est-elle apparue comme évidente finalement ?
En fait, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire au retour d'une, ce qu'on appelle une permanence, c'est-à-dire le cadre dans lequel je rencontre les personnes à Sorosa qui viennent, qui se présentent et qui nomment leurs besoins. En revenant d'un temps de permanence, je reviens à Bourdeaux, je discute avec mes voisins qui là se mobilisent, disent on ne peut pas rester sans rien faire. Et chacun de nous mobilise quelques personnes qui nous viennent en tête comme ça spontanément. Et on a créé ce premier noyau qui vise à s'étendre parce que d'autres personnes se manifestent en manifestant leur intérêt, leur envie de soutenir, etc. Du coup, on a un CA et un bureau qui, les deux cumulés, font une dizaine de personnes, en effet.
Et tous travaillent dans le social comme vous ou pas forcément ?
Non, il y a des artisans, il y a des instits, il y a des gens issus du secteur artistique, il y a des gens de profils très très différents.
La vocation de réseau Femmes à l'abri 26, c'est d'assurer un logement à des femmes en situation de détresse qui n'ont pas accès à l'hébergement d'urgence. Mais dans quelle mesure, en fait, on peut risquer de ne pas pouvoir prétendre à ce genre de dispositif qui pourtant est garanti par la loi, je crois?
Parce qu'il y a l'écart entre ce qui est écrit et ce qui est pratiqué. C'est-à-dire que depuis à peu près 2 ans et demi, un peu moins, 1 an et demi, c'est quelque chose de tout à fait décomplexé, de dire « Ah bah madame ou monsieur a reçu une obligation de quitter le territoire français » ou « Madame ou monsieur a vu sa demande de titre de séjour refusée » ou etc. Donc on le met dehors. Et donc avant c'était feutré, c'était « Ah j'ai entendu dire que… » Bref, et c'était feutré, c'était pas très assumé, c'était quelque chose d'assez complexé, c'était compliqué à porter, que ce soit par les politiques ou les travailleurs sociaux, ce genre de décision, et maintenant c'est quelque chose de complètement assumé, qui n'est pas dans le cadre de la loi. Et là encore, ça se dégrade, parce qu'y compris en période de trêve hivernale, il y a des expulsions, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas normalement acceptable. Et parce que les critères de vulnérabilité qui s'étaient réduits à peau de chagrin maintenant ne sont plus respectés non plus. Très récemment, j'ai vu une femme nigériane avec sa petite fille de 2 ans et 7 mois, donc qui théoriquement, dans la période hivernale qu'on traverse en ce moment, devrait bénéficier de l'hébergement d'urgence. Elle a été refusée au motif que sa situation administrative ne le permet pas.
D'accord, donc les critères en fait finalement sont un peu flous.
Ils sont complètement arbitraires.
Ouais, arbitraires. La solution que vous avez trouvée, vous, pour venir en aide aux deux femmes, pour l'instant, dont on parlait en introduction, c'est de louer un appartement, en fait. Et d'ailleurs, vous venez d'en trouver un récemment à Valence. Comment vous imaginez vous y prendre, en fait, pour financer cet appartement? Quel est le modèle économique?
Pour l'instant, ça n'est qu'avec des dons privés. C'est-à-dire qu'on a mobilisé, on a agi dans l'urgence, on agit avec les gens qu'on connaissait, des contacts au premier degré, et des gens dont on sait qu'ils sont sensibles à cette question-là. On a essayé d'avoir un maximum de personnes, c'est-à-dire que ça permet d'avoir des dons les plus modestes possibles qui n'ont pas un impact vraiment significatif sur le budget des personnes. Mais le but, c'est qu'ils soient réguliers. Mmh. Ça permet d'avoir un confort de trésorerie pour pouvoir voir venir et pour pouvoir se projeter sur plusieurs années, parce qu'il est possible que la régularisation de ces personnes, bien que leur dossier soit tout à fait recevable tel qu'il est constitué, il est possible que ça prenne plusieurs années. Mmh. Donc, pour ne pas risquer de mettre qui que ce soit à la rue nous-mêmes, on choisit d'avoir un modèle économique avec des personnes proches qui nous avertiront le jour où elles décident de suspendre leur financement, et on cherchera quelqu'un qui donne à hauteur de ce qu'il donnait chaque mois.
D'accord, donc ça vous permet d'éviter l'incertitude finalement.
Exactement.
De ne dépendre pas que du don dont on ne sait pas
exactement
quand il sera viable.
On fait également des appels à dons ponctuels parce qu'on a des besoins ponctuels. Par exemple, l'installation, c'est quelque chose de financièrement assez lourd parce qu'il faut meubler, parce qu'il faut ouvrir les compteurs, il faut payer la caution, il faut ci, il faut ça. Donc c'est quelque chose d'assez lourd. Donc il y a aussi des événements, une petite soirée privée qui se prépare. Je vais aussi organiser un stage de théâtre à l'été avec des personnes concernées par l'hébergement d'urgence, pas seulement les deux personnes qu'on héberge, qui elles viendront gratuitement, mais on va constituer un gros groupe pour faire du théâtre ensemble à l'été qui vient. Les bénéfices reviendront à l'association. Voilà, on fait aussi des petites actions ponctuelles comme ça qui permettent
de financer le
projet.
Et est-ce que vous avez été étonnée de la mobilisation des gens? Parce que finalement, ça s'est passé en 3 mois à peu près, l'appel aux dons et le fait de trouver un appartement. Donc c'est plutôt rapide, non?
C'est très rapide, c'est très rassurant. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a même pas que ça. C'est-à-dire que là, actuellement, comme je vous disais, on a une petite soirée privée qui se prépare. Privée dans la mesure où le contexte sanitaire ne nous permet pas de l'ouvrir plus que ça. C'est pour ça qu'on l'a gardée à échelle modeste. Et je vois qu'il y a une mobilisation d'artisans boulangers qui nous donnent du pain, d'un brasseur qui nous offre de la bière, une auberge qui nous offre le gîte pour accueillir tout ce petit monde, des groupes de musique qui viennent gratuitement. Bref, il y a une espèce d'émulsion comme ça, où c'est assez évident, il n'y a même pas eu besoin de poser la question de dans quelle mesure ça peut être un peu moins cher que ce qui est prévu, parce que la gratuité s'est proposée d'office. Pareil pour la mobilisation des donateurs réguliers, ou même ponctuels, parce qu'on a des personnes qui sont par exemple au RSA et qui ont donné des sommes qu'elles pouvaient donner, et c'est assez surprenant. Et c'est assez rassurant de voir que certes l'État se désengage, et que là il va falloir, ça c'est mon point de vue, admettre l'idée qu'on ne pourra plus compter dessus, mais il y a une mobilisation citoyenne qui est forte et qui commence à s'étendre.
qu'est-ce qu'elles deviennent, ces deux femmes, puisque l'appartement, vous allez emménager en mars prochain. Quelle est leur situation actuelle? Est-ce que les membres de l'association les hébergent en attendant?
C'est ça. En fait, il y en a une qui est encore, mais qui, à la fin du mois, aura la fin de son hébergement d'urgence pris en charge, c'est-à-dire que ça va jusqu'à la fin du mois de mars, en ce qui concerne celle qui a deux enfants. Et l'autre est chez moi, actuellement, avec sa petite. Mais on va répartir les hébergements. Voilà. Du coup... il y a une mobilisation aussi sur cette transition-là. Et également, cette femme a été hébergée chez une des bénévoles dans son petit studio à Valence pendant un certain temps. On a trouvé des petits patchs comme ça qui assurent. Parce qu'entre le moment où on s'est constitué et le moment où elles seront hébergées, il s'est passé du temps. Et du coup, il a fallu trouver des solutions comme ça intermédiaires. Et elles ont été trouvées.
Et jusqu'où vous espérez les soutenir
Jusqu'à l'obtention de leurs papiers, jusqu'à leur autonomie, jusqu'à voilà, leur autonomie complète, quoi.
Et comment on assure ça, alors? Est-ce qu'il y a des... Vous qui travaillez dans le social, est-ce qu'il y a des étapes indispensables?
Il y a le fait de les soutenir dans le fait d'attendre, parce que c'est quelque chose de très compliqué, que le moral peut chuter. Le fait de continuer de mobiliser leur rencontre avec des Français, de leur faire apprendre le français. Il y en a une des deux qui parle très bien, l'autre qui est en train d'apprendre. Le fait d'encourager la scolarité des enfants, de venir soutenir, de venir aussi amener un peu de légèreté avec des vacances à la campagne dans la Drôme. Ça paraît bête, mais en fait c'est fondamental. C'est-à-dire que ces espaces de respiration, ils sont constitutifs d'un bien-être moral au quotidien. Et en fait, il faut savoir qu'une personne qui attend des réponses, elle attend très longtemps. Et que ce soit pour avoir une couverture de santé ou que ce soit pour avoir des papiers, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et l'attente est insupportable au sens premier du terme. Il est très difficile de supporter cette attente-là. Donc on va essayer de faire en sorte de soulager cette attente-là aussi. Et puis au plus les personnes sont entourées, alors ça c'est pareil, c'est un espèce de pronostic de militante associative, mais plus les personnes ont du monde derrière elles, et en général plus l'issue est favorable.
Voilà. Et vous avez, elles vont s'installer en colocation toutes les deux, elles se connaissaient avant?
Très peu, mais elles se connaissaient un peu, elles s'étaient repérées l'une l'autre.
Et ça aide aussi, ça, finalement, d'avoir quelqu'un qui partage une même situation compliquée.
Oui, tout à fait.
Créer une association laisse supposer que vous ne comptez pas en rester à la situation de ces deux femmes. Le nom même de votre association le laisse d'ailleurs entendre, hein, Réseau Femmes à l'abri 26, qui renvoie au département. Ça laisse aussi entendre que vous vous emparez là finalement d'un enjeu qui est plus structurel, plus global. On va citer quelques chiffres. Les femmes représentent un peu plus de la moitié des personnes immigrantes en Europe, à peu près 51%, selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations. Comment vous envisagez-vous la suite de votre engagement? Est-ce qu'il y a un secteur, donc le secteur du département, est-ce qu'il y a d'autres femmes déjà que vous envisagez d'aider?
On envisage différents niveaux, c'est-à-dire que là, il se trouve que ce sont des personnes exilées parce que sur l'échelle des personnes vulnérables, en général, les femmes et les enfants sont les plus exposés. Quand on parle de réseau femmes à l'abri, c'est pour toutes les femmes. Il va y avoir deux niveaux d'intervention, ce qu'on espère, ce qu'on essaye de mettre en place. Là, la première année est vraiment consacrée à la stabilisation de l'habitat des deux premières personnes qu'on va aider. Et ensuite, on va pratiquer de l'aller vers, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un petit bureau mobile qui va aller, que ce soit en milieu rural, sur des aires des gens du voyage, etc., à la rencontre des femmes, dans le cadre de permanence qu'on va proposer pour qu'elles viennent, que ce soit pour la CAF, que ce soit pour ci, pour ça, puis après la discussion se fait. Et il peut y avoir d'autres sujets qui sont spécifiques un peu à ce que vivent les femmes qui peuvent être soulevées. Dans ces cas-là, on apportera notre aide. Et on espère aussi, mais ça c'est un coup tellement important qu'on le garde en ligne de mire, mais on va être modeste au niveau de la temporalité, on espère aussi ouvrir d'autres appartements. Et pas forcément seulement pour des personnes exilées, c'est-à-dire pour quiconque en aura besoin, dans les dispositifs de mise à l'abri, dans les...
Et comment on peut vous aider, participer à votre action, à notre petite échelle de citoyens, citoyennes?
Alors évidemment financièrement, déjà. Donc il y aura le Hello Asso, il est possible qu'il y ait un lien internet,
c'est ça? Je mettrai le lien, oui,
okay,
bien sûr.
Ok, super. Donc il y a le Hello Asso qui est en cours, qui permet de faire des dons ponctuels ou réguliers. Il y a le fait, c'est très bête, mais comme ça donne du courage d'entendre « Oh, c'est bien ce que vous faites », d'entendre un intérêt quelconque particulier ou d'avoir des envies de rencontre avec les dames qu'on croise, de les accueillir sur, je ne sais pas, un événement, un festival, ainsi, un ça. Enfin, c'est assez dynamique comme région, donc je me dis que ça pourrait être propice à des rencontres. En tout cas, juste le simple fait de diffuser de l'information, d'accorder de l'attention et de diffuser de l'information, c'est quelque chose de très important pour nous. Et évidemment, au plus on aura de sous, au plus on aura de capacité d'agir. Donc les dons sont importants. On a également besoin de bénévoles. Donc là, c'est pareil. Quiconque a envie de donner du temps et de ses compétences, on est preneur, quoi.
Anne Caïs, je vous remercie.
Merci à vous.
Vous êtes présidente de l'association Réseau Femmes à l'abri 26. Avec 10 habitants de Bourdeaux, vous avez fondé cette association pour venir en aide à deux femmes en ce moment, mais de manière plus générale aux femmes en situation de détresse et qui sont menacées de se retrouver sans abri. Pour les soutenir, chers auditeurs, vous pouvez contribuer à leur appel aux dons, comme on vient de le dire, sur la plateforme Hello Asso, dont je mettrai du coup le lien dans l'article du podcast. Et vous pouvez également suivre l'actualité de l'association sur son site internet, dont je mettrai également le lien sur le site.
Merci
beaucoup.
É sempre mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água...
Radiola.media.